9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre santé, je vous le disais, on a exfiltré Nadia El-Bouga de Toulouse. Où elle est très assidue à la faculté, me dit-on, mais là ça suffit. Trop de Toulouse, tue le Toulouse, hein, Nadia.
Ah, je ne sais pas s'il y a trop de Toulouse.
Vous aimez bien, hein, Toulouse.
Ah, j'ai découvert les Toulousaines et les Toulousains et... C'est,
ça y est.
Ouais, ce sont des gens vraiment très 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 appréciables, très agréables.
Et tous les dimanches, vous êtes au match alors ?
Alors non, parce que je reviens le vendredi.
Vous n'allez pas voir le match le dimanche. C'était comment sur le terrain ?
Alors oui, dans le cadre de mon master, effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain, notamment rencontrer les communautés LGBTQIA+.
Voilà, à Toulouse. On en reparlera dans une autre émission. L'actualité, dimanche dernier, la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Nous recevons aujourd'hui Pierre Foldez. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Tout d'abord, merci de nous accorder de votre temps qui est compté. Vous êtes urologue, inventeur de la chirurgie réparatrice du clitoris et vous êtes cofondateur de Women Safe, anciennement appelé Institut en santé génésique. Et là, tout de suite, ça veut dire quoi, génésique ?
Alors, merci de poser la question. Effectivement, on avait choisi un terme qui est exact, mais qui est mal compris des francophones. C'est un terme américain, en fait. C'est le gender issue, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne, en fait, la santé mère-enfant dans le monde onusien. On trouvait assez intelligent, dans un premier temps, de s'appeler comme ça, parce que ça recoupe très, très bien ce qu'on fait. Mais finalement, personne ne comprend rien. Donc, on a changé de nom. Alors, je suis pas du tout un communicant, mais heureusement, j'ai... Frédéric Martz, qui est la cofondatrice à côté de moi.
Et effectivement, vous avez choisi Women Safe, qui est beaucoup plus francophone que génésique, absolument. D'ailleurs. Hein, franchement, c'est mieux. Alors, votre association a été récompensée en 2015 par le réseau mondial d'entrepreneurs sociaux Ashoka. Et notamment, ils vous ont récompensé pour votre approche innovante en matière de prise en charge des femmes victimes de violences. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter l'objectif de votre institut ?
Alors, en fait, on avait parcouru un petit peu ce monde des prises en charge ou des non-prises en charge à l'époque de violences, parce qu'on trouvait qu'en fait, en France comme ailleurs, c'était des chapelles les unes à côté des autres, c'est-à-dire que on va aller traiter quelquefois les violences conjugales, mais surtout pas les viols. Donc une femme victime de viol, même intraconjugale, n'avait pas accès à cette petite chapelle. Donc c'était complètement ridicule. Et puis surtout, si vous alliez dans la maison de l'inceste, peut-être que vous y étiez écouté, mais il n'y avait pas de santé. S'il y avait santé, il n'y avait pas de justice. Donc deux principes fondateurs. S'occuper de toutes les formes de violence. À partir du moment où une femme subit quelque chose qu'elle n'a pas voulu, elle est victime de violence, que ce soit dans la rue, dans son travail et surtout en intrafamilial. Et ensuite, une fois qu'elle est dans un dispositif, on va tout lui apporter pour qu'elle n'ait pas à répéter son histoire. Un accueil qui va permettre de libérer sa parole et après, tout réellement, tout lui apporter, c'est-à-dire la santé qui était vraiment pas présente dans ces dispositifs, la justice, le bien-être, le social, ses enfants, etc. Et nous avons donc créé ce protocole de pluriprofessionnel et fait marcher tout ça ensemble et c'est un vrai succès. Puisque actuellement on a plus de 2800 femmes en file active, que ça augmente sans arrêt, qu'on est un petit peu appelé sur le territoire pour dupliquer ce dispositif et manifestement ça marche. On a essayé de mettre en place des indicateurs dès le départ pour mesurer ce qu'on faisait. C'est important de mesurer ce qu'on fait parce que surtout quand on est des militants engagés, on peut très facilement être dans le fantasme et si on ne prouve pas ce qu'on fait, ben on va pas plus loin. Il faut prouver. On a d'ailleurs en tête de faire une étude d'impact socio-économique parce que c'est très important de prouver que en plus de rendre service aux femmes, ça fait gagner de l'argent. Parce que le deuxième objectif, c'est aussi d'essayer de faire un peu changer la politique, mais avec des vrais arguments.
Alors, si vous mesurez aussi, c'est parce que vous êtes co-dirigé, co-présidé par une femme qui vient de l'entreprise.
Voilà.
Donc c'est... Mais c'est vrai que dans l'entreprise, on mesure tout le temps.
Voilà,
on mesure beaucoup les résultats qu'on a.
Un des gros problèmes quand on fait travailler des professionnels ensemble, c'est qu'ils ont leur vision. Par exemple, un avocat, il va dire... Moi, c'est très bien, mais je peux jamais parler à un médecin. Quand le médecin vient, je comprends rien à ce qu'il dit. Le médecin va dire exactement la même chose en disant, en plus, si je me gourre sur le plan juridique, c'est moi qui vais être impacté. Donc, il fallait l'intelligence de quelqu'un qui était extérieur à tout ça. Et Frédéric est cette personne, puisqu'elle est à la fois passionnée. Elle a quand même avant dirigé un syndicat de femmes médecins. Donc, elle s'est intéressée à la féminisation de la médecine. Et elle a cette vision tout à fait externe, assez extraordinaire. Et elle a tout ce que j'ai pas. C'est-à-dire que je suis pas un communicant. Je sais pas parler d'argent. Je sais pas réclamer des sous. Je sais pas me mettre en avant. C'est très bien de pas se mettre en avant, mais il faut un peu savoir parler. Moi, je sais pas parler. Elle le fait très bien.
Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si votre structure existe aussi, c'est parce qu'elle est financée.
Eh ben, Oui, allez, on a un petit peu de sous. Alors, tout est gratuit chez nous. Hein, mais
il faut le dire.
Tout est absolument gratuit. Les femmes ne payent jamais rien, ne sortent pas une carte vitale. Elles vont avoir des prestations qui sont jusqu'à plusieurs années, et notamment de prise en charge psychologique ou juridique. Mais nous ne vivons que de la solidarité. Donc, on a quelques subventions et quelques fondations. Mais il faut que la grosse partie de notre travail, c'est d'essayer de trouver de l'argent pour continuer et se développer.
Alors, le ton est donné à l'entrée de la salle d'équipe de Women Safe. Hein. Vous avez une devise, c'est « Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient ». Donc vous êtes une vingtaine de professionnels, donc vous avez dit avocat, infirmier, médecin, psychologue, sage-femme, entre autres. Et dans cette équipe-là, comment est-ce que vous vous coordonnez pour comment les choix sont faits lorsque une femme se présente avec prenons l'exemple de le cas d'une femme qui subit des violences conjugales.
Alors c'est très bien de commencer comme ça parce que en fait. Critique constructive des dispositifs qui existaient avant, c'est que la femme avant avait répété son histoire et allait courir d'un guichet à l'autre. Mmh. Hein. Et là, on a remis la femme au centre. La femme est au centre, ce sont les professionnels qui vont tourner autour d'elle et ça change absolument tout. Mmh. Donc l'approche qu'on a et qu'ont pas les autres dispositifs, c'est qu'on a trouvé un métier qui était pas mal pour faire ça, c'est les infirmières. Parce que les infirmières sont des gens qui, d'abord, n'ont pas du tout la tête qui dépasse des épaules comme les médecins. Ils sont beaucoup plus proches de des patientes. Et ils ont une capacité d'écoute qui est développée. Donc, c'est des infirmières qui vont se spécialiser dans l'accueil. Donc, une femme va rencontrer une infirmière d'accueil. Cette infirmière d'accueil, on l'a formée pour ça. Et c'est effectivement une spécificité. Et elle va avoir, donc c'est un entretien qui peut être assez long, hein, et elle va, en fait c'est ça qui se passe. Dans cette interface, il faut une interface. Ces femmes, souvent, par exemple dans le domaine de l'excision, mais pas que, dans le domaine des violences conjugales par exemple, ou de l'inceste, ça peut être des choses qui sont bloquées dans la tête, dans leur famille, dans leur vécu depuis des années, voire des dizaines d'années. Et là, il faut un déclic, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'alchimie assez extraordinaire pour que ce rideau se déchire et elle va commencer à s'ouvrir, à déverser son histoire. Et là, il faut faire deux choses très importantes. D'abord, il faut respecter sa parole. Ça peut être très douloureux. Hein. C'est des choses assez monstrueuses qu'on peut entendre. Et il va falloir prendre ce discours pour que, déjà, on n'ait pas à le répéter une autre fois. Et puis, imaginer une première stratégie d'approche, mais pas dans la tête du thérapeute, c'est dans la tête de la victime. C'est elle qui va dire, qui va exprimer ses demandes, on pourrait dire ses revendications, ses demandes. Vas-y, demande peut être. Alors, et puis, curieusement, ça peut très bien ne pas être la première. C'est-à-dire qu'une femme vient pour un problème psychologique, en fait, elle a besoin de voir un juriste tout de suite. Ou inversement, elle vient pour un conseil de divorce, je veux un avocat, mais elle a surtout besoin d'une prise en charge sanitaire. Et ça, on va le décoder. Parce que l'infirmière, maintenant, a le métier pour le faire. Mmh. Donc, après ce premier entretien, vont se déterminer un certain nombre de priorités. Voilà, je vous propose de voir 1, 2, 3. On peut faire jusqu'à 4 consultations de suite dans la même journée, hein, ce qui fait quand même beaucoup de choses parce qu'on a quand même en moyenne 3 à 5 nouvelles arrivantes par jour, en plus de toutes celles qui reviennent. Et donc vont se mettre en place ensuite un certain nombre de réponses juxtaposées mais non hiérarchisées. Et ensuite aura lieu donc un jour, deux jours, une semaine après, un staff où les professionnels, les premiers professionnels vont se mettre autour de la table, réfléchir au cas, aux premières réponses, etc. Et la stratégie de prise en charge va se mettre en place. Elle peut être relativement courte, mais elle peut être extrêmement longue, puisque des femmes peuvent rester là plusieurs années.
Mmh. D'accord. Et une patiente, par exemple, le profil d'une femme migrante, mais qui n'aurait pas de papier, qui n'aurait pas de carte vitale et de sécurité sociale, peut se présenter à l'Institut ?
Absolument. Toute femme victime de violence peut se présenter. Ce cas que vous décrivez est très, très intéressant parce que sur la migration, d'abord, les femmes qui n'ont rien, qui n'ont pas encore de papier, etc., si vous prenez cette population-là, elles ont une proportion de situations de violence qui est absolument colossale. Hein. Donc, je ne dis pas que c'est les pires, mais on trouve des situations terribles. Mmh. Donc, il faut bien que quelqu'un commence.
Mais est-ce que vous pouvez la décrire, cette situation de violence ? Parce que déjà, la migration en elle-même est une violence.
Mmh. Alors, ce qu'on apprend, en fait, c'est que quand une femme est en situation de subir une première violence, elle n'est pas plus fragile, mais elle est considérée par la société dans laquelle la violence a été commise comme susceptible d'en subir d'autres. Oui. Donc elle est fragilisée. Donc ces femmes-là, en général les femmes migrantes, ne sont pas parties pour rien de leur pays, et dans une assez grande majorité des cas, elles ont déjà subi des violences dans leur pays d'origine. En plus, cette situation de migrante mais victime va les fragiliser, et tout ça est utilisé par les passeurs, par les circuits plus ou moins légaux, même dans les camps. Et il y a un deuxième niveau de violence plus ou moins avérée, qui peut être terrible aussi, dans la migration elle-même. Et enfin, quand elles arrivent dans un pays où la culture est si différente, tout ceci peut être encore utilisé par d'autres prédateurs. Et donc cette situation de potentielles victimes va se rajouter encore. Donc ce sont des femmes qui ont des situations très complexes. Alors ça peut être plus simple, mais ça peut être ça. Et ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'actuellement, vous savez, la législation est en train d'évoluer, peut-être sûrement dans le bon sens pour l'immigration, et que maintenant les violences, notamment les violences sexuelles, voire les mutilations sexuelles féminines, deviennent une des raisons de l'intégration ou de la demande d'intégration, notamment la mise en danger des enfants. Donc c'est ce simple petit changement ou potentiel changement administratif accentue la pression, parce que du coup elles sont beaucoup plus là pour des raisons administratives. On sort d'une réunion très intéressante avec l'OFPRA, parce que l'OFPRA suit ça, mais c'est une très très grosse machine l'OFPRA, mais c'est intéressant parce qu'ils sont réactifs, et je trouve que nous personnellement on est assez content de pouvoir discuter avec les politiques à ce niveau, parce que quand on leur dit des choses intéressantes et des choses qui viennent du terrain, on a l'impression de faire changer les mentalités. Alors, peut-être qu'une impression, mais il y a, comme vous voyez dans nos objectifs, on a deux objectifs. Un, c'est de rendre réellement service aux femmes, hein, sans être forcément un dénonciateur de ce qui se fait pas assez bien avant. Ça c'est pas nous qui devons le faire. On n'est pas trop dans le plaidoyer, peut-être pas assez. Mais ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est quand même, c'est un tel sujet de santé publique qu'il faut essayer de faire changer la politique, mais avec une attitude opérationnelle et des raisons de faire remonter l'activité du terrain.
Donc pas uniquement critiquer, ou pas du tout même critiquer ce qui ne s'est pas fait ou ce qui ne se fait pas, mais plutôt faire et faire le bilan de ce qui vous a permis justement d'avancer et de rendre plus opérationnel l'accompagnement des femmes.
Quand on interroge les politiques, effectivement, je pense par exemple à un procureur de la République, un responsable de commissariat, un commissaire divisionnaire par exemple, il voit arriver une association de plus qui va dire il n'y a pas assez d'eux, vous êtes surchargés, vous tapez sur les femmes. Alors nous, tout le monde a déjà fait ça depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'était pareil pour l'excision. Ça fait 40 ans que des ONG spécialisées dans le plaidoyer se déplacent en disant l'excision, c'est pas bien, ça ne marche jamais. Hein. Eh bien, comme pour l'excision, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce n'est pas le sujet actuellement, dire à un imam l'excision, c'est pas bien, ça ne marche jamais, quand vous lui dites l'excision, c'est ça, quand vous expliquez ce que c'est, ça change tout. Et ben c'est pareil pour les violences faites aux femmes. On essaye de voir pourquoi ça marche pas. Donc on est plutôt un dispositif de recherche, hein, de recherche et de développement. Au lieu de critiquer, on se met dans l'intimité du mécanisme de la prise en charge des violences, et on essaye de comprendre ce qui ne marche pas. Et puis on va essayer de trouver des solutions. Curieusement, dans un certain nombre de cas, ce sont des solutions qui sont simples, qui peuvent ne pas forcément mobiliser des ressources supplémentaires, mais par l'intelligence des choses, par exemple, ce qu'invente Frédéric Marx, le secret partagé, le fait de mettre en parallèle des gens qui ne se parlaient pas avant, comme un avocat, un médecin, mais c'est valable pour toutes les autres branches, le fait de les faire travailler ensemble, ça permet à tout le monde de gagner beaucoup de temps, de gagner en efficacité. Les femmes ont l'impression, elles nous le disent, qu'on leur parle différemment, qu'elles vont plus rapidement à un dialogue qui avait plein de barrières, et là on a l'impression de faire avancer les choses. Et c'est extrêmement bien, en fait. Ça nous fait du bien à tout le monde.
Pierre Foldès est notre invité dans AVS. On va continuer cette conversation. Dis donc, pour quelqu'un qui ne sait pas parler, vous parlez drôlement bien. Hein.
Oui, clairement.
Pierre Foldès, un bon communicant. Vous pourrez rejoindre la conversation, si vous voulez, tout à l'heure au 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beur FM.
Avec Nadia Elbouga. Et Nadia, nous avons un invité aujourd'hui, c'est Pierre Foldès, urologue, inventeur de la chirurgie réparatrice du clitoris. Pierre Foldès, vous êtes un chirurgien et finalement vous êtes cofondateur de cette association qui s'appelle Woman Safe. Qu'est-ce que vous venez faire là-dedans finalement? Parce que c'est quand même très éloigné de votre prise en charge à vous qui est médicale.
Bah, je trouve pas à quoi ça sert un médecin. Pourquoi on est médecin? Alors d'abord, j'ai des parents qui voulaient absolument pas que je sois médecin. Donc,
C'est mal tourné, vous.
Oui, oui. Je suis vraiment comme si je leur annonçais que je voulais faire un acteur de cirque, un truc comme ça. Mais ils voulaient pas, c'était pas scientifique, etc. Et en fait, moi, je pouvais pas imaginer un autre métier, c'est-à-dire que ça m'intéresse la chirurgie d'ailleurs. En fait, un médecin, si ça n'est pas dédié à résoudre des problèmes autour de l'être humain, je ne sais pas trop à quoi ça sert, donc j'ai du mal à répondre à cette question.
En plus de ça, vous êtes chirurgien, donc vous êtes un gars de terrain, vous faites des actes chirurgicaux. Alors,
on prend de façon très réductrice, c'est-à-dire que le chirurgien, il se sert de ses mains, c'est-à-dire qu'il est forcé d'être un primaire, il n'est pas très intellectuel, c'est pas très intellectuel, il a besoin de faire et de toucher. Il a besoin d'être dans le pratique. Quoi.
Voilà, moi, j'ai appris quelque chose en m'intéressant à votre histoire, c'est qu'avant d'être un expert du bistouri, vous étiez un escrimeur redoutable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez échoué de justesse en 1965 en finale du championnat de France de fleuret. Ce qui veut dire que finalement, pour moi, du fleuret au bistouri, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Oui, peut-être, oui.
On en parlera au cabinet.
D'accord. Oui, j'adore les psys parce qu'ils démontent tout ça et puis ça fait du bien en fait. On se dit, ah, mais j'avais pas pensé à le dire comme ça. Mais il a raison. Voilà.
Mais c'est un engagement. En tout cas, vous avez un engagement de plus de 40 ans sur le terrain. Ce que je voulais dire dans ma question, c'est que finalement, à un moment donné de votre parcours, votre vision de la prise en charge de la souffrance féminine a changé.
Bah, c'est-à-dire que la souffrance féminine, c'est amusant parce que quand j'étais à Médecins du Monde, on avait ce qu'on appelle des groupes géopolitiques. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent pour l'Asie, il y avait des gens pour l'Amérique latine, pour l'Afrique. Et puis, il fallait imaginer quelles étaient les plus victimes, les gens qui avaient le plus besoin pour mettre les sous là et pas ailleurs. On a été chercher, par exemple, les Yanomami au centre du Brésil. Bon, ils ne sont pas très nombreux, donc comme il n'y a pas assez de population... mettre les gros financements là-dessus, c'était difficile. Donc j'ai passé des dizaines d'années à voir qui était plus victime. Et puis finalement, en réfléchissant avec des expériences de terrain, j'ai découvert le monde de la femme victime dans le monde, et ça m'a paru tellement bouleversant que c'était une révélation pour moi. Mais j'ai dit, mais j'ai complètement déconné jusque maintenant. En fait, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, parce qu'en plus, ces victimes qu'on va aller trouver au fond du Niger ou au fond de l'Amazonie, bah, elles existent aussi exactement à la porte d'à côté, avec finalement, comme les mécanismes d'agression, on va les découvrir là-bas. On va découvrir qu'à notre porte, dans le voisin d'en dessous, chez le notaire, dans toutes les couches de la population, c'est pareil. Et ça, quand on découvre ça, c'est intenable. C'est un tas pour quelqu'un qui veut faire. Donc on va y chercher de trouver comment essayer de faire ça, parce que on ne peut pas vivre avec cette idée. En fait, c'est une solution de facilité d'être médecin. Parce qu'on a on se donne des moyens de résoudre des problèmes qui sont aussi ses propres problèmes. Alors ça, je parle au psy. Et donc, c'est très facile, finalement.
Comment est-ce que vous découvrez les ravages causés par l'excision?
Alors, ça, c'était aussi une belle expérience. J'étais en fait en Afrique pour l'OMS sur un thème qui est un peu voisin, qui sont les fameuses fistules vésico-vaginales, fistules obstétricales. Ça, c'est un drame, c'est 240 millions de femmes dans le monde. La fistule obstétricale, c'est un marqueur de la pauvreté. C'est-à-dire que plus on est pauvre, plus on est éloigné des villes, moins on a de moyens, plus on accouche difficilement, et plus il y a des catastrophes possibles, surtout en Afrique, avec des éclatements du périnée, avec des trous qui se forment entre la vessie, le vagin, le rectum.
C'est ce que...
la fameuse fistule,
ouais.
Et ça, c'est de la chirurgie possible, mais très difficile. Et donc, ces femmes-là, elles sont aussi, en général, victimes de mutilations, ou souvent victimes de mutilations sexuelles. Et donc, c'était au Burkina, où des femmes, sachant que j'étais urologue, se sont approchées de moi. En fait, c'est elles qui ont fait tout le chemin. Et m'ont dit, tiens, ça fait mal. Donc, on est rentré sur ce thème, curieusement, par la douleur. C'est très machiste, hein, parce que on pouvaient pas s'imaginer qu'elles avaient qu'elles avaient des problèmes sexuels, mais il fallait la douleur pour rentrer là-dedans. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était un petit peu curieux. Donc je suis rentré chez moi très interpellé. Je me suis aperçu que j'ouvrais mes livres de médecine, que le clitoris il n'existait pas. Moi j'avais en tant qu'urologue,
c'est-à-dire
bah, n'existait pas dans les bouquins.
J'avais 100 techniques.
Il y avait pas une entrée clitoris dans le.
Pour le pénis, j'avais 200 techniques pour la moindre coudure, petite plaie, etc. À clitoris, il n'y avait rien. Il y avait des trucs qui dataient d'un siècle.
Donc, dans votre livre de chirurgie
dans la, non, non seulement dans les livres, mais avant, dans les livres d'anatomie, de physiologie, etc., le clitoris n'existait pas. Ça, ou très, très peu. Ça veut dire que nous étions les premiers exciseurs. C'est nous les exciseurs. Il ne faut pas les chercher. C'est nous les exciseurs. Le clitoris, personne, tout le monde s'en fout. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est que cet organe? Donc, pourquoi le réparer? Pourquoi même comprendre qu'il existe? Pourquoi inventer de la médecine pour ça? Non, ça, on est excisé. Et donc, j'ai commencé, puisque je suis anatomiste aussi, à faire des recherches, à en disséquer. J'ai aperçu que c'est un organe qui fait près de 11 cm. C'est aussi grand qu'un pénis. C'est beaucoup plus compliqué. Et en découvrant la réalité, ça, c'était le premier niveau du travail, j'ai découvert que sur les femmes excisées, les nerfs principaux étaient intacts. Donc, c'était réparable, entre guillemets. Si j'aime pas du tout ce mot de réparation. Donc, je me suis mis à charger cette technique. Et puis, le chemin faisant, eh bien, cette technique a pu voir le jour. Et c'est tout à fait faisable de réparer une excision.
Voilà. C'est-à-dire que vous avez inventé, il faut le dire.
Oui, c'est ça.
Vous avez inventé, ça vous a pris combien de temps de réflexion, je veux dire
Une dizaine d'années à peu près.
Oui, d'accord.
Oui, parce qu'il faut faire des allers-retours.
Voilà, donc c'est, cette pratique de l'excision, vous y êtes intéressé, elle remonte à quand?
27 siècles.
27 siècles, hein, donc ça veut dire 27 siècles...
Ce sont les marqueurs qu'on a, puisque les momies égyptiennes sont excisées, de façon c'est des types 3, des types assez graves. Donc en fait, beaucoup de gens beaucoup plus qualifiés que moi, des sociologues se sont penchés là-dessus. En fait, alors on va trouver plein de raisons pour exciser les femmes. En fait, il y a par pays, c'est des, c'est la pureté, c'est la, le passage à l'âge adulte, il y a plein de choses. En fait, ça recouvre une seule... un seul crime d'origine machiste, hein, qui est le contrôle de la sexualité féminine. C'est-à-dire que les hommes, sortant de leur caverne, ils appréciaient pas que la femme soit responsable de la reproduction du clan, mais en plus, ils comprenaient pas du tout leur sexualité, même à l'époque. Hein. Et donc, à force de chasser
le bison,
ils comprenaient pas cette sexualité complète. Donc, ça leur a fait peur. La peur amène au crime. Donc, ils se sont mis à couper ce truc-là. Par contre, eux, il y a 27 siècles, ils n'ont pas attendu la science moderne. Ils ont très, très bien compris que ce petit bout qui sortait était vraiment responsable du plaisir féminin. Ça, ils l'ont tout de suite compris.
Mais vous rendez compte, l'homme préhistorique, déjà...
Oui, mieux que nous, hein.
Il comprend ça.
Ah, oui.
C'est fou, ça. À quelle distance, quand vous découvrez cette pratique, vous vous tenez d'une pratique qui est millénaire? Parce que, est-ce que le fait de dire c'est bien, c'est mal, voilà, ça se pratique depuis 27 siècles. Donc, comment est-ce qu'intellectuellement, on aborde cette problématique-là?
Eh bien, je vais vous dire, parce que ça résout tout. En fait, si on continue à réfléchir comme ça, on ne fait jamais rien. En fait, la révolution, ce n'est pas la chirurgie. La révolution, c'est d'écouter les femmes. Parce que si vous les mettez en condition, même au fond du village du Niger, à écouter ce qu'elles disent, même avec les traditions, elles finissent pour vous dire, un, je ne l'ai pas voulu, et deux, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Oui. Et à partir d'une revendication aussi forte, aussi puissante, aussi étonnante, on peut tout bâtir. Donc on cherche, on essaye de réparer, et puis quand ça, on voit que ça marche, et après, elles continuent à vous dire, quoi. Hein, et surtout, il va se passer une deuxième révolution, parce que La chirurgie implantée, ça s'est mise en place. On a vu que ça marchait. On a fait quelques ajustements. On a d'ailleurs une petite référence. L'excision, c'est extrêmement variable d'un pays à l'autre, d'un village à l'autre. Donc, c'est pas une façon de faire. Ça, c'est un ensemble de pratiques qui touchent aussi les petites lèvres, le périnée. C'est plus compliqué qu'on le dit. Et puis, en plus, ces femmes, ces pauvres femmes qui sont mutilées, elles vont subir une sexualité et elles vont avoir des accouchements difficiles. À chaque fois, ça rajoute d'autres séquelles qui vont se rajouter. Et ce qu'on a à traiter, c'est quelque chose de très abîmé. Donc, c'est pas juste aller chercher le clitoris. Bon, quand on fait ça, on voit que ça marche. Et la deuxième révolution, c'était un peu la rencontre avec Frédéric Martz. Elle m'a dit, mais t'es dans ton bloc, t'en opères des dizaines et des dizaines, mais t'as absolument rien compris aux femmes. Je dis, mais d'accord. Parce qu'une femme, c'est pas ça. Hein. Même que tu leur fais le clitoris, ça suffit pas. En fait, elle a raison, parce que ces femmes, elles demandent effectivement un retour en arrière. Mais en fait, elles demandent réellement à reconstruire une personnalité féminine, reconstruire une identité féminine, reconstruire éventuellement une sexualité. Et la sexualité, ce n'est pas l'organe. Ce n'est pas que l'organe. Alors, il y en a qui ont été beaucoup plus loin là-dedans et qui disent il faut voir que des psys, la chirurgie, il n'en faut pas. Il y a aussi ce débat. Mais nous, on a choisi...
C'est à la femme, finalement, de choisir, puisque toutes les femmes excisées ne demandent pas forcément une réparation chirurgicale.
Absolument, absolument.
D'où, d'ailleurs, vous l'avez justement dit il y a quelques minutes, le terme de reconstruction et pas uniquement de réparation. Parce que dans le processus de reconstruction, il n'y a pas forcément une démarche chirurgicale qui est demandée.
Et donc, comme pour toutes les autres formes de victimes de violence, à nous de décoder, d'écouter toute la demande et de l'accompagner. Et c'est elle qui pilote la femme. Hein, c'est elle qui pilote. Et si jamais... Donc moi, j'en ai vu 15, 16 000 en consultation depuis 25 ans. Et j'en ai réparé que 6 000. Donc, vous voyez, ça veut dire que quand même, on ne propose pas systématiquement la chirurgie. Et la chirurgie n'est pas en avant. D'ailleurs, effectivement, et ça, Frédéric, elle sera là, elle vous le dirait, le fait de mettre la chirurgie en avant, ça, c'est un réflexe machiste. Hein, c'est « je sais tout, je suis l'homme qui répare les femmes », ça ne veut absolument rien dire, ce n'est pas du tout ce que demandent les femmes. Là, les femmes demandent qu'elles écoutent leurs souffrances, qu'elles puissent les dire, qu'elles puissent leur raconter mieux, et après on essaye de s'adapter à leurs demandes. Mais on n'est pas le maître du monde, hein. On n'est pas le fait de... Ça c'est difficile, par exemple, quand on enseigne la chirurgie aux Africains, souvent ils sont tentés d'aller faire une technique qui va les mettre en avant, leur faire gagner de l'argent, etc. Ça c'est encore un piège machiste. Hein. Et à chaque fois qu'on essaye de rendre service aux femmes victimes de violences en général, il faut se garder de toute avancée. J'ai découvert le monde, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours, toujours les écouter, toujours les remettre en avant. C'est très difficile, surtout avec des femmes victimes. Donc c'est ça qui doit être le maître mot. Et là, donc, on va les accompagner. S'il faut, on les opère. Si on les opère, il va falloir l'accompagner dans cette redécouverte de la sexualité, traiter les violences psychologiques qui sont en général au premier plan, beaucoup plus importantes, tout à fait constantes, traiter le post-traumatique, traiter tout ce qui a été fait, parce que ces femmes victimes de mutilations sont victimes en général de mariages forcés, de violences intraconjugales, et tout ça, si vous le laissez tomber, ça ne marche pas. Souvent, des femmes qui arrivent à l'institut, par exemple pour un mariage forcé, elles vous disent « oui, l'excision dans l'enfance, oui, mais le mariage forcé, il est là tout le temps, il empêche ma vie, et il faut décoder tout ça, il faut leur laisser la priorité. Il ne faut jamais utiliser ce qu'elles disent à notre profit, sinon ça ne marche pas. »
Vous avez aussi la situation des patientes, d'ailleurs, que je suis amenée à accompagner, qui découvrent leur excision avec maintenant justement cette question qui est médiatisée, qui est parlée, qui découvrent qu'elles ont été excisées et en fait elles ont vécu, elles ont toujours vécu avec leur excision, ça n'est pas forcément un obstacle à leur vie sexuelle, mais du coup c'est un choc d'apprendre qu'elles font partie justement des femmes excisées. Et du coup ces femmes-là, comment vous les accompagnez?
Mais elles le découvrent comment?
Alors justement, comme elles entendent parler de l'excision et des campagnes qui sont faites, du coup, elles se questionnent. Pour certaines, elles s'observent, mais elles sont quand même assez rares. Sinon, elles questionnent leurs proches. Donc les grandes sœurs,
elles ne se souviennent pas.
Elles ont été excisées très très tôt, bien souvent avant l'âge de 3 ans. Et du coup, elles commencent à questionner l'entourage, les grandes sœurs, la maman quand c'est possible, quand le dialogue est possible sur la question de l'excision. Et du coup, là je pense à deux patientes précisément qui, pour elles, ça a été un choc. C'est-à-dire qu'elles décrivent une vie... tout à fait normal entre grandes guillemets, mais le fait d'apprendre qu'elles ont subi une mutilation sexuelle les a complètement retournées, pour utiliser un terme de jeune. Donc du coup, ces femmes-là, elles pourraient éventuellement se présenter à l'institut.
C'est exactement ça. Ouais. C'est qu'il y a un grand nombre de femmes, notamment migrantes, qui viennent pour beaucoup d'autres raisons, des situations terribles, complexes, et de temps en temps, on découvre qu'elles sont excisées.
Oui.
Et là, donc, il va y avoir un processus.
Alors là, en l'occurrence, ce ne sont pas des femmes migrantes. Hein. Ce sont vraiment des femmes d'origine africaine, nées et grandies en France.
Oui, pareil. Qui viennent pour une violence intraconjugale, plein d'autres choses, effectivement. Dans un certain nombre de cas, on découvre qu'elles sont excisées. Enfin, la façon de leur dire, de les accompagner là-dedans, sans jamais prétendre vouloir forcément faire quelque chose. Mais c'est très impressionnant. Juste deux petites choses. Dans les femmes victimes d'excision, vous avez... celles qui ont été excisées tout bébé. Hein. et qui ont normalement... Alors, il faut savoir que dans les tout bébés, ça peut aller jusqu'à 15% de mortalité immédiate. Hein. Mmh. Donc, c'est quand même pas rien. Mmh. Donc, il y a celle tout bébé. Mais même dans celle-là, on peut trouver du post-traumatique qui va se dérouler.
Oui, tout à
même
fait.
Dans les tout bébés. Hein, mmh. Et puis, à l'inverse, on en a pas mal en France. Hein, c'est le Burkina et la Côte d'Ivoire. Des femmes qui sont excisées après 12-13 ans, mmh. voire plusieurs fois à l'âge adulte, avec là des violences psychologiques terribles. Mmh.
Mmh. Allez, est-ce à votre santé, Nadia? Nous recevons Pierre Vollès, qui est notre invité jusqu'à 10h.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le retour de Nadia Edbouga. Et Nadia, nous recevons aujourd'hui Pierre Vollès, qui est cofondateur de Women Safe. C'est une association pluridisciplinaire. Ça, c'est important de dire que finalement, tout le monde travaille ensemble. On parlait des avocats tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a particulièrement touchée et intéressée justement dans la démarche de l'Institut, de Women Safe, c'est justement cette pluridisciplinarité avec le monde libéral. Et vous êtes le seul institut d'ailleurs à opérer de cette manière.
Oui, dans ce qu'on a découvert des dysfonctions en fait, de la société, il y a une tendance qui n'est pas très très bonne, c'est ce qu'on appelle l'hospitalocentrisme. Mmh. C'est qu'on peut essayer de tout faire à l'hôpital, mais ça coûte toujours beaucoup plus cher. Et puis surtout, ça laisse de côté la moitié de la médecine qui n'est pas organisée comme ça en France. Alors on peut toujours le regretter, mais les pharmaciens, les sages-femmes libérales, les infirmières libérales,
les ostéopathes, médecins,
voilà, ouais. Tout ça, ce sont des gens qui voient des femmes, pas exactement au même niveau que les hôpitaux, ou même les mêmes, mais qui sont immergés dans toute la société civile. Et donc la réponse à ce très grave problème de santé publique que sont les violences faites aux femmes ne peut être que dans la totalité, la profondeur de la société civile. Il faut laisser personne de côté, sinon je suis sûr qu'on laisse plein de gens de côté. Je pense par exemple aux zones rurales, hein, où un certain nombre de femmes ne vont pas. Je pense par exemple à la capacité d'une boulangère, d'une pharmacienne, de détecter sur une clientèle qu'elle voit tous les jours des petits changements, etc. Mm. En travaillant en profondeur ces tout petits contacts, on fait quelque chose d'absolument essentiel, c'est qu'on monte le plus en amont possible dans l'histoire des violences. On essaie d'être le plus préventif possible. Et c'est vraiment, ça c'est une... Mm. Parce qu'on peut toujours dire, bah, quand elles sont battues, allez, il faut qu'elles portent plainte, on va aux urgences, on va aux UMJ. Nous, on dit que c'est certainement déjà trop tard. Hein. Mm. Il faut essayer, avant la première claque, essayer d'intervenir, de comprendre les mécanismes de sa violence, d'entrer dans l'intimité de ce mécanisme de violence. Et c'est comme ça qu'on a l'impression de progresser. Pour ça, il faut absolument que tout le monde s'y mette. Et surtout pas opposer la médecine libérale à la médecine hospitalière. Mais il faut intégrer les hôpitaux. Et il faut leur parler de la même façon. L'expérience montre que ça marche très très bien. Mmh. Que ça marche très bien. C'est qu'on oppose faussement ce monde libéral, ce monde hospitalier. En fait, c'est des gens qui demandent qu'à travailler ensemble. Ils n'ont peut-être pas les mêmes rémunérations, les mêmes conditions de travail. Peu importe, ils ont la même mission. Venir au contact de la population. Et ça ne se partage pas.
Oui, tout à fait. Enfin, en tant que professionnel de santé, je partage complètement cette démarche qui, à mon sens, est constructive pour tout le monde, puisque pour le coup, au sein de l'Institut, vous proposez également de former non seulement les professionnels du milieu hospitalier, mais également les professionnels du monde libéral.
Tout à fait. On fait des sessions de formation. C'est aussi un organisme de formation qui est ouvert. Je pense par exemple aux sages-femmes qui sont à la fois des libérales et des professionnels, les infirmières, ce monde-là se côtoie très bien. D'ailleurs, on les met ensemble, hein, on ne va pas séparer les choses. Mmh. Et c'est très important d'avoir le même discours pour tout le monde. D'ailleurs, ils découvrent, je pense par exemple, quelque chose qui nous préoccupe toujours, c'est l'engorgement total de la psychiatrie hospitalière, qu'elle soit CMP, CMPP, quand on veut prendre en charge des enfants victimes de violences, tout est forcément complètement engorgé. Il nous faut un rendez-vous pas à 3 mois, il nous faut un rendez-vous dans la journée. Oui. Hein. Et comment on fait pour un rendez-vous dans la journée? Ben, on se met à travailler autrement. C'est dans ce travailler autrement qu'on trouve les solutions. Hein. Oui. Et c'est une action politique, je dis vraiment politique au sens noble, d'étudier les mécanismes de la société pour voir comment ça peut mieux fonctionner, au lieu de sans arrêt réclamer des sous et dénoncer. Oui. Il faut apporter de l'intelligence où il n'y a pas de l'argent. Et l'intelligence, il y en a. Et si on arrive à faire comprendre aux gens combien c'est important, combien l'avenir de la société est lié à la santé des femmes, hein, parce que là, ça, elles sont tellement au centre du maillage, du ciment de la société. Si on arrive déjà à tous les niveaux à faire comprendre ça, on a gagné un certain nombre d'étapes qui sont absolument vitales pour notre avenir.
Alors Pierre Faudes, je rappelle que vous avez inventé la chirurgie réparatrice des femmes excisées. Votre technique est aujourd'hui validée, elle est enseignée, publiée dans le monde entier. On avait l'impression que l'excision, c'était quelque chose d'abord qui concernait que l'Afrique noire et qui n'existait plus aujourd'hui, qui était tombé, on va dire, en désuétude. Pas du tout.
Eh ben pas du tout, non, malheureusement. C'est oui, près de 200 millions de femmes, c'est plus de 50 pays, ça existe en Asie, ça existe dans les pays d'immigration, aux États-Unis, en Australie, il y a un gros foyer en Indonésie, au plateau du Vietnam, il y en a en Inde, des grosses communautés. En fait, quand on cherche un peu et on chemine un peu avec l'UNICEF qui est très très content de, ils ont des équipes formidables sur le terrain de montrer que dans certains pays ça commence à diminuer avec l'action militante, etc. Ben, malheureusement, on découvre d'autres terrains, on découvre des changements de paradigme. Par exemple, l'islamisation forcée de certains territoires a fait basculer les choses. On est en train de revenir en arrière au Burkina Faso qui est un pays phare où la prévalence avait diminué et là ça repart.
Donc même si l'excision, n'est pas islamique, il faut être clair.
C'est pas du tout religieux, c'est en particulier pas islamique, mais on ne va pas rentrer dans ce débat.
D'accord, mais il faut le préciser.
Mais c'est pas islamique, c'est très important de le dire.
Mais c'est important de le préciser parce que certains imams utilisent justement des hadiths qui ne sont pas...
Des charias locales où on va tout faire pour resoumettre les femmes, revoiler alors qu'elles n'étaient pas voilées, etc. Donc ça arrive et donc il y a des retours en arrière. Alors... Là, je complète un petit peu. Il y a aussi des formes d'excision qui sont malheureusement non traditionnelles, hein, qui ne sont pas dues à la tradition de ceux qui sont des crimes, hein, des crimes de guerre ou des crimes sociaux, où on va mutiler les femmes. Je pense à un pays emblématique là-dessus, qui est la République démocratique du Congo, où on a des villages où 100% des femmes sont violées. Et là, effectivement, on fait des crimes sexuels, des actes de torture, ça existe. Malheureusement, on voit quelques-unes de ces femmes chez nous et il faut la chirurgie réparatrice s'étend à ça. Hein, ces crimes qui sont très très compliqués, ces chirurgies qui sont beaucoup plus complexes, ça existe aussi.
Et si on parle du Maghreb, alors aujourd'hui, comment se porte l'excision au Maghreb?
Alors normalement, le Maghreb était indemne de tout, sauf les frontières. Enfin, il y avait l'Égypte, le Soudan, et qui sont des particularités où on excise beaucoup. Malheureusement, on a vu arriver quelques formes d'excision donc non traditionnelles en Tunisie, alors que moi j'en ai opéré 8, je crois. Donc on commence à en voir partie.
Alors que ça n'existait pas auparavant.
Absolument pas. Donc il faut faire attention, parce que d'abord, en fait, le fait de s'intéresser plus aux femmes, d'être plus proche d'elles et de raccourcir les circuits de prise en charge permet de découvrir des choses qu'on connaissait pas avant. Alors peut-être que ça existait avant. Et quand on dit
qui n'étaient pas repérées.
Voilà, quand on dit les violences faites aux femmes augmentent, ça peut avoir deux significations. Soit c'est vrai, ça peut toujours à certains moments d'histoire, ça peut être vrai. Mais surtout, est-ce que les femmes
s'y intéressaient autrement
on les voit différemment. Les circuits de prise en charge peuvent se mettre en place. Donc c'est un phénomène sociologique complet dans lequel je ne veux pas rentrer.
Tout à fait. Et il y a également un phénomène qui est la médicalisation de l'excision, alors notamment en Égypte.
Alors ça, c'est absolument dramatique. Il faut savoir aussi que...
Ça veut dire quoi déjà, la médicalisation?
C'est le fait... Au lieu de faire pratiquer cette pratique traditionnelle par des exciseuses traditionnelles, les professionnels de santé eux-mêmes se mettent à le faire.
Alors, il y a une raison, j'imagine.
Alors, il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est qu'il faut faire très attention, c'est très bien de le dire à l'antenne, qu'à chaque fois qu'on fait des choses comme ça, nous, soi-disant les humanitaires, etc., ce qu'on fait sur le terrain va avoir des conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de criminaliser l'excision va modifier les pratiques, faire que l'excision va être faite à des âges différents, on va ramener les enfants au pays. Donc, il faut faire attention aux conséquences de nos propres pratiques. La deuxième chose, c'est que, du coup, des gens dans les pays se sont dit d'abord, l'excision, ça peut nous rapporter un peu d'argent, parce que ça peut être payant, contrairement à la France, où la prise en charge est gratuite.
Et là, c'est pour la réparation. L'opération que vous pratiquez, elle est remboursée.
Oui, j'ai obtenu le remboursement intégral par la sécurité sociale, mais il se trouve que sur le terrain, les excisions peuvent être payantes, notamment en Égypte, par exemple. Et donc, des professionnels se sont dit, on va attraper ce marché-là, et puis on va soi-disant faire des excisions à minima, c'est-à-dire moins dangereuses, parce que nous sommes des professionnels de santé, Et donc, on va faire nous-mêmes les excisions, comme ça, ça sera moins compliqué. Eh bien, on s'inscrit en faux là-dessus, parce que d'abord, moi, j'ai pu, puisque on a un recrutement assez important, opérer pas mal de femmes qui ont été excisées avec ce phénomène de médicalisation, et j'ai trouvé des situations qui étaient de temps en temps pires que celles des exciseuses. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui sait réparer quelque chose, qui a une petite connaissance médicale, peut obturer un vaisseau qui saigne, éviter une infection, mais paradoxalement peut donc faire des gestes plus graves que l'exciseuse qui, si elle le faisait, tuerait la petite fille. Donc j'ai trouvé des situations paradoxalement aggravantes dans cette médicalisation. Mais même, le problème, c'est que les femmes vont vous le dire, moi je ne veux pas rentrer dans une appréciation de ça, mais les femmes disent, toujours la même chose, je n'ai pas voulu ce geste, je considère que ce n'est pas normal, j'en souffre, et on a beau me dire que mon sexe, il n'est pas si abîmé que ça, et là, le deuxième problème qui arrive, c'est que quand elles arrivent en France, qu'elles doivent avoir des certificats, qu'elles doivent avoir des gynécos, c'est tellement bien masqué que de temps en temps, le gynéco, il va dire, ben non, vous n'avez pas été excisée, elle sera mort, une véritable torture, truc, et on la voit chez la psy, parce que personne...
Il y a une négation de ce qu'elle a vécu, finalement.
Ça peut être possible, donc il faut former les gens, etc., ça, c'est un autre combat. La médication, c'est un gros problème, actuellement, et l'OMS et l'UNICEF sont très préoccupés par ça, c'est un autre combat qu'il faut mener sur le terrain, ici.
Tout à fait. Je le reprécise tout de même, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est quand même important de repréciser parce que il y a toute la prise en charge médicale, mais il y a également aussi, à mon sens, une prise en charge sociétale, et de redire que l'excision ne fait pas partie de l'islam. C'est très important. D'ailleurs, il y a des associations qui sont engagées sur le terrain pour sensibiliser les imams, enfin les prêcheurs lors de la Jumu'a du vendredi, pour expliquer à la population que ça n'a rien d'islamique et que voilà, c'est une pratique totalement mutilante pour les jeunes filles et pour les femmes. Donc c'est important de le préciser.
Sauf que pendant des générations, les humanitaires, entre guillemets, très idéalisés, allaient voir les imams et les chefs de village et les marabouts et les politiques locaux et disaient l'excision, faut pas faire, c'est pas bien. Mais ils n'avaient aucune légitimité pour le dire. Et là est arrivé quelque chose d'essentiel, qui est que maintenant on sait ce que c'est, on connaît les conséquences, et on peut changer le discours. Au lieu de dire l'excision c'est mal, à une conférence d'imam, on dit l'excision c'est ça, on leur montre les conséquences, et le fait de changer le discours change tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de juger des valeurs, on ne parle absolument pas d'islam, les valeurs de l'islam sont les valeurs de l'islam, on n'a pas à rentrer là-dedans, on n'est pas légitime pour faire ça. Par contre, on a des femmes qui nous parlent, des femmes qui nous disent, et ça nous donne légitimité, au moins de porter leur parole. Et là, c'est absolument incontournable, mais les imams le comprennent très bien.
Et là, je m'adresse à la sage-femme que vous êtes, Nadia. En cas d'accouchement, ça pose des vrais problèmes.
Alors oui, d'où l'intérêt justement des équipes formées, parce que n'importe quelle sage-femme ne peut pas accoucher comme ça une femme qui a été excisée. Il y a un minimum de formation à avoir, il y a des postures qu'on utilise lors de l'accouchement pour favoriser justement l'ampliation du périnée. Enfin, c'est tout un art d'accompagnement pour ces femmes-là, et je rejoins Dr Foldes, c'est vraiment un accompagnement pluridisciplinaire. Et la patiente, cette femme, est accompagnée dès le départ. Je dirais même dès son projet préconceptionnel, de pouvoir justement l'amener progressivement à être entourée, encadrée, accompagnée de façon optimale.
Pierre Foldes, vous êtes cofondateur de Women Safe. Est-ce que votre centre a vocation à être exporté, modélisé?
Oui, je suis que cofondateur, mais Women Safe, c'est une équipe formidable de plus de 25 personnes, dirigée par Frédéric Mars, qui aurait dû être là ce matin, qui est la cofondatrice et qui dirige ces équipes. On a été le premier centre multidisciplinaire vraiment en France, et on a montrer et démontrer que c'est efficace. Et donc, bien sûr, on est appelé un petit peu partout sur le terroir et aussi un peu à l'étranger pour essaimer et répliquer. Et c'est un travail qui commence.
D'ailleurs, à ce titre, il me semble que jeudi 29 novembre, vous organisez, dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, une soirée.
On a une grande soirée dans la mairie du 3e, qui s'appelle Les Invincibles, avec beaucoup, beaucoup d'invités. Et on aura toute notre communauté qui va être là. Vous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre dans cette belle manifestation où les femmes vont vraiment avoir la parole, et les professionnels aussi.
D'accord. Et donc sur votre site, womensafe.org.
Alors, ne me regardez pas, Nadia, alors là, c'est vous qui savez ces choses-là.
www.womensafe.org, pour les personnes qui souhaitent faire des dons, c'est possible, voilà, sur le...
Chez Women Safe, site alors, tout est absolument gratuit, même si on suit la femme pendant 2 ans. Nous vivons donc dans la solidarité. Il est très important de nous rejoindre. Si vous nous rejoignez, on va pouvoir parler, vous allez comprendre, vous allez vraiment vous sentir acteur à notre côté de ce formidable combat. Et donc, si vous pouvez nous rejoindre et trouver de l'argent pour nous, ça serait absolument formidable.
Et l'Institut se trouve dans le département des Yvelines.
Il est dans 78, à 25 minutes de l'Étoile, à Saint-Germain-en-Laye. Et il va s'aimer très rapidement.
Moi, j'ai le numéro de téléphone, vous voyez, par exemple. J'ai l'ancienne 01 39 10 85 35. Nadia, ça faisait un moment qu'on l'attendait, hein, ça fait plaisir de l'avoir eu enfin sur ce plateau, d'avoir partagé ce moment avec vous tous qui nous écoutez.
Tout à fait.
Pierre Faudès, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et au plaisir. Nadia, on vous retrouve la semaine prochaine. Tiens, je ne vous rends pas au Toulousain avant une semaine.
Oui, très
non.
Bien.
Oui, avec non. Plaisir. Voilà. Restez avec nous encore une
avec
semaine.
Avec plaisir.
Beurre FM, 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon.